Enfin,
donc si je passe... Ah. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Heureux d'être parmi vous, c'est toujours un plaisir. Merci pour votre accueil.
Tu défies le test.
Ah, mince alors. Je spoil la prédication. Voilà, on va essayer de plus la faire défiler. Alors, je ne sais pas si vous avez la télévision, moi je ne l'ai pas, mais il paraît qu'il existe une émission qui s'appelle Patron Incognito. Il y en a certains qui la suivent apparemment, hein. Vous connaissez tous les épisodes. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, ce qui est mon cas, le principe de ce programme est simple. Le patron d'une société se déguise en stagiaire pendant un jour et vient visiter ses employés. Ainsi, il peut visiter l'entreprise incognito. Bien entendu, au moment décisif de l'émission, le patron tombe le masque et il dévoile sa véritable identité. Et comme vous pouvez l'imaginer, hein, ça suscite toutes sortes de réactions. Stupéfaction, colère, incompréhension. Le passage que nous allons lire aujourd'hui ressemble un petit peu à cette séquence de l'émission. Il s'agit d'un passage dans l'évangile selon Jean. Jusqu'à présent, Jésus est passé relativement incognito auprès du monde. Il a grandi et comme l'a dit notre frère Patrick, hein, pendant une trentaine d'années, il était simplement le fils du charpentier et rien ne le distinguait des autres. Il a commencé ensuite à faire des signes, des miracles qui pointent vers son identité. Mais vous remarquerez que les deux premiers signes dans l'évangile selon Jean sont faits en petit comité, principalement avec les disciples. Tout va changer avec le troisième miracle, celui de la piscine de Bethesda, pardon, en Jean 5. Cette fois-ci, ce miracle va avoir lieu à Jérusalem et il va être médiatisé en quelque sorte. D'autant plus qu'il va avoir lieu un jour de sabbat. Et les religieux de Jérusalem vont commencer à se demander « Mais qui est cet homme qui ose guérir un malade le jour du sabbat ?» En Jean 5, au verset 16, ils se mettent à poursuivre Jésus. Alors Jésus va prendre la parole pour leur répondre et dévoiler pour la toute première fois son identité et sa mission. Son identité et sa mission. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la première partie du premier discours de Jésus dans Jean. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean 5, les versets 17 à 29. Jean 5, versets 17 à 29. Jean 5, versets 17 à 29. On est juste après le troisième miracle de Jésus. Il a guéri un aveugle à la piscine de Siloé un jour de sabbat. Jean 5, versets 17 à 19. À 29, pardon. Je vais lire dans la version second 21. Jean 5, 17 à 29. Cependant, Jésus leur répondit : Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit : en vérité, je vous le dis. Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, aussi il a donné la vie au Fils, il a donné au Fils, pardon, d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans leur tombeau entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus fait face à ses contradicteurs, hein. Il est sommé de se justifier de ce miracle qu'il a opéré le jour du sabbat. Un jour, on était censé ne faire aucune œuvre, hein, vous savez, dans le judaïsme. Donc, sommé de se justifier, Jésus va répondre à ses détracteurs avec une réponse choquante. « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Alors aujourd'hui, cette phrase semble assez banale, hein, on ne voit pas trop où est le problème. Mais imaginez-vous, mettez-vous dans la peau d'un juif pieux du 1er siècle. Quand Jésus dit « Mon Père, il se met au même rang que Dieu. » Il ose utiliser une familiarité avec le Créateur comme s'il jouissait d'une relation particulière avec lui. La plupart des Juifs à l'époque de Jésus auraient dit que Dieu était Père ou que Dieu était le Père d'Israël, mais aucun n'aurait jamais osé dire « Mon Père ». Donc Jésus fait preuve d'une familiarité avec Dieu, comme s'il jouissait d'une relation spéciale avec lui. Et en plus, il fait une allusion à peine voilée à tous les textes qui nous rappellent que Dieu ne se repose pas. Vous connaissez ces textes, hein ? L'Éternel ne dort ni ne sommeille, il veille sur Israël, etc., etc. Et donc il dit « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre ». Pour résumer, c'est comme si Jésus était en train de dire « Le Père et moi, nous agissons sans discontinuer depuis la création du monde. J'ai le droit de guérir pendant le sabbat parce que je suis Dieu. » Et d'ailleurs, les Juifs ne s'y trompent pas. Hein. Vous voyez qu'au verset suivant, ils commencent déjà à vouloir le tuer. Mais résumons. Non seulement cet homme prétend être au-dessus du sabbat, non seulement cet homme se fait l'égal de Dieu, mais en plus, cet homme prétend être Dieu. Pour tout bon juif, il s'agit ni plus ni moins d'un blasphème, d'une insulte au Dieu unique. Et donc, sans surprise, au verset suivant, les juifs cherchent à faire mourir Jésus. Mais vous savez, pour se débarrasser de quelqu'un, c'est pas si facile que ça. Hein. Il y avait déjà des règles et des lois à cette époque, bien entendu. Pour se débarrasser de Jésus, il va falloir le traîner devant un tribunal. Or, il est admis que dans l'évangile selon Jean, le thème juridique, le thème du procès est extrêmement présent. Jean présente Jésus comme un témoin de la vérité. Vous vous rappelez, hein, dès le premier chapitre. Hein. Et nous, on a tendance à dire bah, Jésus est un témoin. Donc on pense à témoin dans un sens, on va dire, démocratisé du terme. Mais Jean nous parle bien d'un témoin au sens juridique. Parce que Jésus est venu pour un procès. Il est venu pour faire un procès au monde. Mais dans notre passage, Jésus va passer du statut de témoin à celui d'accusé. Dès lors qu'il s'est déclaré être l'égal de Dieu, Jésus va être mis en accusation par les pharisiens. On pourrait dire en quelque sorte que le procès de Jésus commence à cet instant même. Et la question du procès va être la suivante. Jésus est-il vraiment celui qu'il prétend être ? Jésus est-il vraiment Dieu ? Si Jésus est vraiment Dieu, si Jésus est innocent, alors nous devons tous le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. En revanche, si Jésus est un usurpateur, si Jésus est un blasphémateur, alors il mérite la mort. Voilà la question du procès. La parole est à la défense. Loin de se laisser impressionner, l'accusé Jésus, regardez les versets 19 et 20, hein, reprit la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que le Père fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Dans ces deux versets, Jésus dévoile sa véritable identité, celle de Fils, et dévoile aussi sa relation particulière qu'il a avec le Père, une relation unique qui l'unit avec le Père. Alors, il y a plusieurs éléments à relever, je pense. Hein. Tout d'abord, Jésus n'est pas un simple guérisseur, ni même un prophète. Vous vous rappelez que Jésus venait d'opérer une guérison. Hein. Mais il y a toujours eu des guérisons. Hein. Si vous allez en Inde aujourd'hui, vous verrez des gens être guéris. Et même à l'époque de Jésus, il n'était pas rare d'avoir des guérisons. De même, il y a toujours eu des prophètes dans toutes les religions et à toutes les époques. Mais Jésus n'est pas un simple guérisseur, ni même un prophète. Il est le Fils. Le Fils venu dans le monde comme un témoin de la vérité, un témoin qui vient révéler le Père en l'imitant. Vous savez, la plupart des fils imitent leur Père, hein, dans une sorte de mimétisme. J'étais missionnaire en Angleterre et je me souviens une fois, il y avait une amie qui m'avait visité en fait et mon père était là. Et elle a vraiment été frappée parce qu'elle avait l'impression de me voir au travers de mon père. Elle me disait, mais c'est incroyable, t'as les mêmes mimiques, t'as les mêmes expressions, t'as le même visage, tu ressembles à ton père. C'est comme si tu imitais ton père. Mais je faisais pas exprès, hein. C'est juste que tel père, tel fils. Vous connaissez l'expression, hein. Donc les fils imitent leur père naturellement. Il y a un mimétisme. Mais de quoi parle-t-on au juste lorsqu'on évoque le père et le fils dans notre passage ? En adoptant ce langage de la filiation du père et du fils, Jésus lève le voile sur une vérité mystérieuse et pourtant bien réelle, la Trinité. Alors effectivement, comme le frère nous l'a dit, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais il ne faut pas confondre un mot et un concept. Ce n'est pas parce que le mot n'est pas là que le concept n'existe pas. Vous savez, je peux vous réciter un poème d'amour sans jamais utiliser le verbe aimer. La Trinité. De toute éternité, il existe un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment non pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Une seule nature divine en trois personnes. Or, vous savez, ce qui définit une personne, c'est le fait qu'elle est en relation. Si je suis le fils de mon père, c'est parce que j'ai un père. S'il n'était pas mon père, je ne serais pas son fils. Et si je n'étais pas son fils, il ne serait pas mon père. Vous me suivez ? L'histoire de famille, c'est compliqué parfois. Donc une personne se définit par ses relations, n'est-ce pas ? De toute éternité, Dieu est en relation avec lui-même. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Mais le Père n'existe pas sans le Fils, et le Fils n'existe pas sans le Père. Et l'Esprit n'existe pas sans les deux autres non plus. Et cette relation intra-trinitaire, cette relation entre les personnes de la Trinité, Jésus nous dit que c'est une relation d'amour. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils, il nous dit. Et je crois qu'il s'agit là d'un élément capital. Si Dieu existait en une seule personne, alors il devrait créer quelqu'un d'autre pour pouvoir l'aimer. Mais Dieu existe en trois personnes. Le Père aime le Fils aime le Père, et le lien d'amour entre les deux, c'est le Saint-Esprit. Dieu est amour. Dans son essence même, dans son être même, Dieu est amour. Et il nous a créés, non pas pour pouvoir nous aimer, mais parce qu'il nous aimait déjà. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Dieu nous a créés, non pas pour pouvoir nous aimer, mais parce qu'il nous aimait déjà. Et comme le relevait un théologien néerlandais, Gerard Hoesvos, la meilleure preuve que Dieu ne cessera jamais de nous aimer, c'est qu'il n'a pas commencé à le faire. La meilleure preuve que Dieu ne cessera jamais de nous aimer, c'est qu'il n'a pas commencé à le faire. Dieu nous aime de toute éternité, avant même l'invention du temps. Dieu nous a toujours aimés. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour, parce qu'il est en relation avec lui-même, et que cette relation a débordé envers nous. Résumons. Il existe un seul Dieu en trois personnes dans une communion d'amour. Voilà le Dieu biblique, voilà le seul vrai Dieu. Un Dieu qui aime et qui nous a créés pour partager cet amour. Mais là, peut-être certains vont me dire, mais ok, d'accord, je vois la Trinité, l'amour de Dieu. Mais si le Fils est Dieu au même titre que le Père, alors pourquoi est-ce que Jésus dit que le Fils ne peut rien faire sans le Père ? C'est bizarre, non ? Il n'y a que moi qui trouve ça bizarre. C'est tous des très forts théologiens. Moi, j'ai encore besoin de faire les études, c'est pour ça. Bonne question. Si le Fils est Dieu, au même titre que le Père, alors pourquoi est-ce que Jésus dit que le Fils ne peut rien faire sans le Père ? Parce qu'il faut distinguer, alors attention, je vais dire des gros mots, parce qu'il faut distinguer entre trinité ontologique et trinité économique. Alors rassurez-vous, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Il faut distinguer Dieu dans son être, la trinité ontologique, et Dieu dans ses fonctions, la trinité économique. Prenons un exemple simple, l'exemple du président de la République, M. Macron. M. Macron est dans son être Emmanuel Macron, n'est-ce pas ? On espère. M. Macron est dans son être Emmanuel Macron. Mais maintenant, sa fonction est celle de président de la République, n'est-ce pas ? Il n'a pas toujours été président, et il ne le sera pas toujours. Surtout si on suit les gilets jaunes. Dans son être, il est M. Macron, et il exerce la fonction de président de la République. Et c'est la même chose pour Dieu. On distingue Dieu dans son être, et Dieu dans ses fonctions. La trinité ontologique, Dieu dans son être, et la trinité économique, Dieu dans ses actions, Dieu dans ses fonctions. Donc pour répondre à notre question, d'un point de vue ontologique, du point de vue de l'être, le Fils est l'égal du Père. Le Fils est autant Dieu que le Père. Il n'est pas Dieu à 98% et puis le Père à 100%. Non, ils sont autant Dieu, ils sont sur un plan d'égalité. Le Fils est autant Dieu que le Père. Cependant, le Père et le Fils n'ont pas les mêmes fonctions. Vous remarquerez que c'est le Père qui a envoyé le Fils. C'est le Fils qui est l'envoyé. C'est pas le Père qui s'est incarné, c'est pas le Père qui est mort à la croix, c'est le Fils. Le Père a envoyé le Fils, et le Fils est l'envoyé du Père. Dans sa mission pour sauver le monde, le Fils a accepté de se soumettre au Père. Du point de vue économique, donc, le Fils se soumet au Père. Le Fils ne peut rien faire sans le Père, mais seulement du point de vue de sa fonction, pas du point de vue de son être. Il respecte tout simplement l'ordre établi. Alors, arrivé ici, hein, peut-être certains se disent « Bon, bah, c'est bien gentil ce qu'il nous raconte, mais à quoi est-ce que ça nous sert ?» Ça nous sert parce que cette distinction entre l'ontologie et l'économie, cette distinction entre l'être et le faire, elle est présente dans chacun des aspects de notre vie. Prenons l'Église. Dans l'Église, nous sommes tous enfants de Dieu sur le même plan. Nous sommes tous égaux. Vous savez, il y a un verset qui dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas des chouchous, hein. Même Jean, il disait « Oui, moi je suis le disciple que Jésus aimait. » Ouais, c'est ça. Il disait ça de son point de vue à lui, hein. Mais Jésus aimait tous les disciples. Nous sommes tous égaux dans l'Église. Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous sommes tous égaux, mais nous n'avons pas tous le même rôle. Certains sont pasteurs, d'autres évangélistes, musiciens, sonoristes, moniteurs d'école du dimanche, responsables du ménage, etc., etc., etc. Il y a un ordre établi dans l'Église. Nous sommes tous égaux, mais chacun a une fonction particulière dans un ordre établi. De même, la distinction entre ontologie et économie se retrouve dans le mariage. Il va sans dire que Dieu a créé homme et femme égaux, n'est-ce pas ? Vous dites pas « Amen », hein ? Dieu a créé homme et femme égaux. Hommes et femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu. Cependant, Dieu a établi une différence dans leur fonction. C'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est la femme qui est appelée à se soumettre à son mari. C'est l'homme qui doit se sacrifier par amour pour sa femme. Voilà la vérité biblique. Malheureusement, nous vivons dans une société qui pense que la soumission implique l'inégalité. Si on dit que la femme doit se soumettre à son mari, alors ça veut dire qu'elle est inégale avec son mari. Mais c'est faux! Le Fils se soumet au Père et pourtant il est son égal. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. La soumission n'implique pas l'inégalité. C'est pas parce que vous êtes responsable du ménage que vous êtes moins élevé que le pasteur. C'est pas parce que vous êtes une femme et que vous vous soumettez à votre mari que vous êtes moins élevé que votre mari. Et c'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes surélevé par rapport à votre femme, hein, je précise aussi. Hein. Notre société rejette l'ordre établi par Dieu, notamment dans le mariage, mais elle se trompe de cible. Le problème ne vient pas de Dieu, le problème ne vient pas de l'ordre établi par Dieu. Hein. Le problème, c'est le péché de l'homme. Le problème, c'est les maris qui abusent de leur femme. C'est les pasteurs qui truandent leur église. C'est ça le problème, mais c'est pas Dieu. La soumission à l'ordre divin doit toujours se faire dans l'amour. Et lorsque c'est le cas, alors elle porte de beaux fruits. Vous voyez que cette distinction entre économie et ontologie, entre être et fonction, est primordiale. Mais si Jésus se soumet au Père, c'est pour accomplir ses œuvres et ainsi révéler le Père au monde. Dans son excellent commentaire, le théologien Donald Carson écrit « Si Jésus, fils de Dieu, en tant qu'être humain, se trouve vis-à-vis de Dieu dans la dépendance et l'obéissance, en tant qu'être divin, il se trouve dans une position d'autorité et de révélation vis-à-vis des autres êtres humains. Le Fils est venu dans le monde comme un témoin de la vérité. Jésus est venu dans le monde pour révéler le Père. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de Dieu. Hein. À quoi ressemble Dieu ? Il y a toutes sortes d'idées qui circulent plus ou moins bibliques d'ailleurs. Hein. À quoi ressemble le Père ? À quoi ressemble Dieu ? À Jésus ! Vous vous souvenez cette scène de l'évangile où Philippe vient vers Jésus et qui lui dit « Mais montre-nous le Père !» Philippe en avait marre parce que Jésus parlait tout le temps de Dieu, du Père, du Père, du Père. Il dit « Mais montre-le-nous une fois pour toutes et puis comme ça on saura qui c'est. » Il lui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu ? À Jésus. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, verset 9. « Le Fils révèle le Père. » Mais Jésus ne s'arrête pas là, il va pousser le bouchon encore plus loin. Relisons verset 21 si vous voulez bien. Verset 21. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Et on peut relier le verset 21 au verset 26. Hein. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est pas une petite chose, hein. Jésus prétend qu'il a la vie en lui-même et qu'il est capable par conséquent de ressusciter les morts. Imaginez la réaction de ses auditeurs. Vous êtes gonflés. Hein. Imaginez que moi ce matin j'arrive dans l'église du Bain-Ménil et que je vous dis « Moi j'ai la vie en moi-même, et je suis capable de vous ressusciter. Amenez-moi un mort et je le ressuscite. Je pense que vous seriez choqués et que vous me jeteriez dehors. Enfin, j'espère pour vous. Hein. Dans la pensée juive de l'époque de Jésus, seul Dieu était l'auteur et le maître de la vie. Les rabbins enseignaient que Dieu jouissait de trois prérogatives absolues, de trois privilèges. Les naissances, la pluie et la résurrection des morts. Les naissances, la pluie et la résurrection des morts. Donc là, Jésus, encore une fois, est en train de dire « Je suis Dieu, j'ai la vie en moi-même. » Seul Dieu peut redonner la vie, ressusciter les morts. Seul Dieu est la vie parce qu'il a la vie en lui-même. Et c'est ce qui constitue la différence entre le Créateur et les créatures. Nous, en tant que créatures, nous avons hérité de la vie. Nous l'avons hérité de nos parents, qui eux-mêmes l'avaient hérité de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, et on remonte jusqu'à Adam, n'est-ce pas ? Ultimement, nous dépendons de Dieu pour notre vie. On pourrait dire que nous avons reçu la vie en héritage. Mais Dieu, lui, au contraire, n'a pas d'origine. Il est incréé. Il est la vie lui-même. Et ainsi, Jésus est en train d'affirmer qu'il a la vie, qu'il est la vie. Et c'est pourquoi il ressuscite les morts. C'est pourquoi il redonne la vie à qui il veut. Cette résurrection des morts, elle avait été annoncée, vous savez, dans l'Ancien Testament par le prophète Daniel. Hein, Daniel chapitre 12, par exemple. Et elle allait de pair avec le jugement. Celui qui nous ressuscite, c'est Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il nous ressuscite ? Bah, pour un jugement. Relisons les versets 22 et 27, si vous voulez bien. Versets 22 et 27. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une ironie dans ces versets. Puisque Jésus est en train d'expliquer à ceux qui veulent le juger qu'il sera lui-même leur juge. Imaginez un procès où l'accusé se retourne vers le juge et lui dit « Tu crois que tu vas me juger ? Mais c'est moi qui vais te juger. » On va inverser les rôles. Non seulement Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts, mais en plus, il a été désigné comme juge de tous les êtres humains, y compris ses accusateurs. De nos jours, on n'est pas trop à l'aise avec l'idée de jugement. Même si notre frère nous en a parlé, Patrick nous en a parlé tout à l'heure. On a du mal à concilier l'idée d'un Dieu d'amour avec la pensée du jugement. Mais pourtant, Jésus en parle abondamment et sans complexe. Le jugement est une réalité, que nous le voulions ou non. Pourquoi ? Parce que sans jugement, tout est permis. Sans jugement, les crimes restent impunis. Plus grave encore, sans jugement, Dieu serait injuste. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Dieu est justice. Il ne peut pas simplement oublier nos péchés comme ça d'un claquement de doigts. Il faut qu'il punisse le péché, qu'il rende la justice précisément parce qu'il est amour. Vous savez, un père qui ne reprendrait jamais ses enfants, qui les laisserait faire tout ce qu'ils veulent, c'est pas un père aimant ça, c'est un père irresponsable. Je sais qu'il n'y en a aucun parmi vous. Punissez vos enfants, c'est bien. J'en profite parce qu'ils sont partis, donc ils ne m'entendent pas. Nous ne sommes pas trop à l'aise avec l'idée d'un jugement, mais pourtant, vous savez, cette doctrine peut toucher le cœur de certains croyants. J'avais entendu un témoignage il y a quelques années de nos frères et sœurs de Roumanie. Vous savez, c'est un pays qui a été communiste pendant très longtemps, ils ont extrêmement souffert. Mais après la chute du bloc communiste, ils ont trouvé un réconfort dans cette doctrine du jugement, en se disant que Dieu, un jour, allait enfin leur rendre justice, que leur bourreau, enfin, serait traîné devant un tribunal. Et pas un tribunal humain, mais le tribunal de Dieu. Dieu est un Dieu de justice qui ne laissera pas le mal impuni. Les victimes seront consolées. Mais au fond, je crois que si nous avons peur du jugement, c'est parce que nous avons des choses à cacher. Chacun d'entre nous a un jardin secret, ou plutôt un jardin toxique, un jardin vénéneux, avec toutes sortes de plantes, des péchés cachés, des fautes non confessées, des secrets inavouables, des hontes dissimulées. Et nous avons un petit peu peur que Dieu vienne mettre son doigt là-dedans. Vous savez, c'est ce genre de choses que vous n'avez jamais osé dire à votre pasteur, que vous n'avez jamais osé dire à vos frères et sœurs, peut-être même que vous n'avez jamais osé dire à votre conjoint. Mais avons-nous raison d'avoir peur ? Avons-nous raison d'avoir peur ? Qui va nous juger ? Est-ce un tyran impitoyable qui va traquer chacune de nos pensées pour nous condamner ? Non, c'est un juste juge compatissant qui nous jugera. C'est Jésus lui-même. Et Jésus nous dit, verset 27, qu'il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Vous remarquerez que dans ce passage, Jésus s'appelle Fils de Dieu et Fils de l'homme. C'est extrêmement rare. Fils de Dieu et Fils de l'homme. Jésus n'est pas simplement le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de l'homme. Dieu n'est pas venu sur la terre, vous savez, comme un ange au-dessus de nous, ou comme un surhomme, mais il est venu en tant qu'homme, comme un Fils de l'homme. Le Fils est incarné, il a partagé notre humanité. Celui qui va nous juger, mes frères, mes sœurs, c'est un homme qui connaît la faiblesse humaine, un homme qui sait la souffrance qui est la nôtre, un homme qui a connu les mêmes détresses que nous, et même de plus fortes encore. Rappelez-vous du jardin de Gethsémané, hein. Mais cet homme est semblable à nous à une différence près. Cet homme est sans péché. C'est un être humain sans péché qui nous montre ce que nous aurions dû être, qui nous montre le standard de Dieu. Et son jugement, en tant qu'homme parfait, ne sera pas simplement un jugement humain. La semaine surpassée, je suis allé voir le film « Une intime conviction ». Je ne sais pas si certains y sont allés. Non, personne. Vous n'allez pas au cinéma, vous êtes des chrétiens plus spirituels que moi. C'est pas grave. Et donc, ce long métrage est tiré d'une histoire vraie, l'affaire Jacques Viguier. Ça raconte en fait un procès d'assises, hein, celui d'un mari qui a été condamné en première instance pour le meurtre de sa femme et qui, en seconde instance, en appel, va être innocenté. Pourquoi ? Parce que les jurés se sont basés sur leur intime conviction. Mais l'intime conviction, c'est basé sur le cœur, en fait, hein, sur le sentiment profond. La justice humaine est à l'image de ce film. Elle est faillible. Elle peut condamner un homme et ensuite le blanchir. La justice humaine fait des erreurs judiciaire. Mais la justice de Dieu sera parfaite en Jésus. Il n'y aura ni erreur judiciaire, ni condamnation arbitraire. Jésus ne se basera pas sur son intime conviction, mais sur son omniscience et sur sa grâce. En résumé, le Fils s'est soumis au Père et le Père lui a remis le jugement. Mais leur soumission, la soumission du Fils a un but. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Le but de la soumission du Fils dans sa fonction, c'est l'adoration du Père et du Fils dans leur essence, dans leur être. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit méritent de recevoir une même gloire et un même honneur. Voilà pourquoi celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Vous savez, hein, si vous allez dans une ambassade et que vous giflez l'ambassadeur, c'est comme si vous avez insulté son pays tout entier. Et de la même manière, si vous n'honorez pas le Fils, vous n'honorez pas le Père qui l'a envoyé, d'autant que Jésus non seulement représente le Père, mais qu'il est lui-même Dieu. Et je crois que nous touchons là un point de tension, hein. Beaucoup de gens croient en Dieu. Si vous faites un micro-trottoir, là, on a eu du mal pour se garer en arrivant parce qu'il y avait un marché, il y avait beaucoup de gens. Mais je suis sûr que si vous allez au marché du Blanc-Mesnil et que vous faites un micro-trottoir et que vous demandez aux gens « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Certains vont vous dire non, mais beaucoup vous diront oui. Oui, je crois en Dieu. Mais c'est bien, hein, c'est un bon début, hein, je ne suis pas en train de critiquer. Hein, mais ce n'est pas assez. La vraie question, ce n'est pas « Est-ce que tu crois en Dieu ?» La vraie question, c'est « Qui est Jésus pour toi ?» Qui est Jésus pour toi ? Un chrétien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît Jésus comme le Fils qui révèle le Père. Voilà pourquoi croire en Dieu ne suffit pas. Les autorités juives du temps de Jésus prétendaient honorer Dieu, hein, ils croyaient en Dieu. Hein. Mais ils ont rejeté son témoin, ils ont rejeté son Fils. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Qui est Jésus pour toi ? Voilà la question fondamentale. Si vous évangélisez quelqu'un, voilà la question fondamentale. Qui est Jésus pour toi ? Et la réponse à cette question va déterminer sa relation avec Dieu et son avenir éternel. Dans la première partie de sa réponse, Jésus a défini son identité, celle du Fils égal au Père qui l'imite, se soumet et le révèle au monde. Et désormais, il va dévoiler ce qu'il est venu offrir au monde. Il a dit « Voilà qui je suis » et maintenant il va dire « Voilà pourquoi je suis venu ». Il va dévoiler ce qu'il est venu offrir au monde. Il est venu dans le monde pour offrir rien de moins que la vie éternelle, la vie éternelle. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Vous remarquerez que Jésus, hein, liste trois étapes simples. Écouter, croire et recevoir. Écouter, croire et recevoir. Et ce même cheminement est mis en avant par Paul, hein, dans Romains 10, verset 14. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Écouter, croire, recevoir. Écouter, croire, recevoir. Celui qui écoute la parole et qui place sa confiance dans le Fils reçoit un cadeau incroyable, une grâce imméritée, la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? J'ai l'impression que souvent, en fait, on utilise ce mot, comme beaucoup de mots, hein, mais on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Contrairement à ce que l'on croit parfois, la vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle commence dans le ici et maintenant. La vie éternelle, selon Jésus, commence dans le ici et maintenant, dans le quotidien de notre existence. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à connaître Dieu, selon Jésus. Connaître Dieu, c'est cultiver une relation d'amour avec lui. Cette vie éternelle est une réalité présente qui a des conséquences éternelles. Pourquoi ? Parce que Jésus dit que celui qui croit ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous remarquerez la forme passée, il est passé de la mort à la vie. Comment échapper au jugement ? Comment éviter la condamnation ? En plaçant sa confiance en Christ, tout simplement. Imaginez que vous comparaissiez devant une cour de justice. Vous êtes l'accusé et vous faites face à un juge. Le procureur vous accuse en faisant la longue liste de vos péchés. Mensonges, vols, paroles désobligeantes, mauvaises pensées, il y en a qui se reconnaissent. La longue litanie s'égrène un bon moment. Et tout à coup, le juge interrompt le procureur en lui disant « Stop ! Arrêtez !» Le juge descend de son perchoir et là, il se change en avocat. Et il dit « Sa faute est expiée, son péché est pardonné. Innocent !» Et là, le procureur s'exclame « Mais c'est injuste, pourquoi ? Il est coupable !» Le juge avocat répond « J'ai payé sa faute, j'ai expié son péché, j'ai effacé sa dette moi-même. Il est innocent. » Et là, vous quittez le tribunal. Un homme ne peut pas être condamné deux fois pour le même crime. À la suite de son procès, Jésus a été condamné, bien qu'innocent. Jésus a été condamné, bien qu'innocent. À la croix, Jésus a payé le prix de nos péchés. À la croix, Jésus a payé le prix des péchés de tous ceux qui placent sa confiance en lui. En d'autres termes, Jésus a pris notre place. Il a pris la condamnation que nous méritions. Lorsque par la grâce de Dieu, nous plaçons notre confiance en lui, il prend notre culpabilité et nous donne sa justice parfaite. Voilà pourquoi celui qui croit en Jésus est passé de la mort à la vie et qu'il ne vient pas en jugement. Pourquoi ? Parce que le jugement est déjà passé sur Jésus. Un homme ne peut pas être condamné deux fois pour le même crime. Jésus a déjà été condamné à notre place. Alors oui, nous avons tous des choses à nous reprocher. Nous avons tous un jardin secret avec des fruits vénéneux. Mais si nous sommes venus à Christ dans la foi et la repentance, alors nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à craindre le jugement parce que Jésus a payé à notre place. Il est notre juge, mais il est aussi notre avocat. Si nous sommes en Christ, notre dette est effacée, notre péché est expié, notre culpabilité est enlevée. Nous sommes déclarés innocents, nous sommes déclarés justes devant le tribunal de Dieu. Amen. Mieux, si nous sommes en Christ comme nous l'avons vu, nous avons la vie éternelle. Une vie qui commence non pas après la mort, mais dans le ici et maintenant. Une vie qui commence à chaque moment de prière. Une vie qui commence à chaque culte. Une vie qui commence à chaque moment où nous ouvrons notre Bible. Voilà la vie éternelle. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Nous lisons les versets 25 et ensuite 28 à 29. Ça, j'espère que je ne fais pas trop long. Très bien. Bon, ben, je suis reparti pour une demi-heure. Amen. Non, Versets 25 et ensuite 28 et 29. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Et ensuite, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas car l'heure vient où tous ceux qui sont dans leur tombeau entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dans nos milieux évangéliques, hein, à juste titre, nous conjuguons le salut au présent. Nous considérons le salut comme une vérité présente, une réalité présente plutôt. Mais s'il est juste d'affirmer « je suis sauvé, nous sommes sauvés », il est tout aussi juste de dire « nous ne sommes pas encore sauvés, je ne suis pas encore sauvé, je serai sauvé ». Le salut est une réalité présente, mais le salut est aussi une réalité future. Notre salut se conjugue au présent comme au futur. Même si nous avons déjà la vie éternelle, nous demeurons mortels. Hein. Notre corps vieillit chaque jour un peu plus jusqu'à la mort inévitable. La semaine passée, Mince, j'avais loupé cette slide, c'est pas grave. La semaine passée, j'ai lu l'interview en fait d'un scientifique, d'un généticien croate qui s'appelle Miloslav Radman. Je suis désolé s'il y a des Croates, je prononce sans doute mal. Et en fait, voici ce qu'il nous dit. C'est un scientifique qui travaille d'arrache-pied à prolonger la vie le plus longtemps possible, faire en sorte que les gens vivent le plus longtemps possible en bonne santé. Et il vient de publier un livre qui s'appelle « Le code de l'immortalité ». Donc voilà, si vous voulez vivre plus longtemps, vous achetez ce livre. Mais malheureusement, voici ce qu'il nous dit. Le journaliste lui demande, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le code de l'immortalité », « Pensez-vous tendre vers l'immortalité ?» Non. Mince. La seule façon de ne pas mourir est de ne pas naître. Notez, ne pas naître. Pensez à ne pas naître, comme ça vous ne mourrez pas. Non, la seule façon de ne pas mourir est de ne pas naître. L'immortalité ne peut pas constituer une perspective biologique de longévité. Elle reste une notion littéraire et poétique. Personne n'est immortel, même les scientifiques, même les généticiens l'admettent. Personne n'est immortel, personne ne sera jamais immortel. Tout autant que nous sommes, nous allons mourir tôt ou tard. La plupart d'entre nous ne préférons ne pas y penser, parce que nous avons peur, mais nous allons tous mourir. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Nous allons tous mourir. Seulement après la mort, Jésus nous offre la perspective de la résurrection. Vous savez, beaucoup de chrétiens s'imaginent que leur espérance, c'est le salut de leur âme, que leur espérance, c'est d'aller au ciel après leur mort. Mais Jésus nous promet bien plus qu'un salut immatériel. L'espérance chrétienne, ce n'est pas l'immortalité de l'âme, c'est la résurrection des corps. C'est la résurrection des corps. Ce qu'un chrétien attend, c'est que Jésus revienne pour transformer son corps mortel en corps glorieux, un corps incapable de mourir et de pécher, un corps comme celui de Jésus ressuscité. Tel il est, tel nous sommes. Mes frères, mes sœurs, nous n'allons pas passer en jugement comme des âmes, flottant comme ça dans le ciel. Non, nous allons passer en jugement dans notre corps. Et nous aurons des comptes à rendre pour ce que nous avons fait avec notre corps. Jésus précise, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors peut-être que certains sont troublés. Jésus vient d'affirmer que celui qui croit a déjà la vie éternelle. Et là pourtant il dit que la vie est réservée à ceux qui font le bien. Est-ce qu'il est en train de se contredire? Bien sûr que non. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi n'est jamais seule. Je m'explique. La foi véritable produit nécessairement des œuvres. Celui qui croit réellement en Jésus obéit à ses commandements. Et ses œuvres sont la preuve de son salut. Faire le bien, c'est tout simplement placer sa confiance en Jésus et vivre en nouveauté de vie. Si nous sommes en Christ, la perspective du jugement doit donc non pas nous effrayer, mais nous réconforter. Dans l'institution, le réformateur français Jean Calvin écrit « C'est une singulière consolation » de savoir que le pouvoir de juger a été donné à celui qui nous a destinés à participer à son honneur dans cet acte. Loin de lui la pensée de monter sur le trône pour nous condamner. En effet, comment un prince tellement clément perdrait-il son peuple? Comment le chef dispersait-il ses membres? Comment l'avocat condamnerait-il ceux dont il a assuré la défense? C'est loin d'être une petite assurance de savoir que nous comparaîtrons pas devant un autre tribunal que celui de notre Rédempteur, dont nous attendons le salut. De plus, nous voyons ici que celui qui nous promet maintenant, par son évangile, le bonheur éternel, ratifiera sa promesse lors du jugement. Le Père a hautement honoré le Fils en lui conférant l'autorité de juger. Ce faisant, il a prévu de consoler la conscience de ses serviteurs, qui pourraient trembler à la perspective de l'horreur du jugement, s'ils ne possédaient une espérance certaine. Si nous sommes en Christ, mes frères, mes sœurs, la perspective du jugement devrait nous consoler au lieu de nous affliger. La perspective du jugement devrait nous encourager au lieu de nous décourager. Nous n'avons aucune crainte à avoir parce que nous avons l'assurance de notre salut et parce que celui qui va nous ressusciter et nous juger, c'est Jésus-Christ, notre avocat. Mes frères, mes sœurs, vous remarquerez que le jugement n'a pas encore eu lieu. Vous remarquerez que la résurrection n'a pas encore eu lieu. Nous vivons dans un temps entre les temps. Nous sommes déjà sauvés et pourtant nous ne sommes pas encore sauvés. Nous sommes déjà ressuscités dans l'esprit, mais pas encore dans la chair. L'analogie classique qui résume cette tension entre le déjà et le pas encore, c'est celle de l'image du D-Day et du V-Day. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Les nazis ont déjà perdu la guerre. Mais il faudra attendre presque un an avant le V-Day, la capitulation de l'Allemagne. Le déjà et le pas encore. Peut-être que cette image guerrière déplaît à certains. Alors pensez à des fiançailles et au mariage. Le jour des fiançailles, les futurs époux sont déjà promis l'un à l'autre, mais ils ne sont pas encore mariés. Leur union ne sera scellée que lors du mariage. Mes frères et mes sœurs, nous vivons entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945, entre le jour des fiançailles et le mariage, entre le temps et la vie éternelle. Jésus a déjà remporté la bataille décisive à la croix et au tombeau, et il l'a appliquée à notre vie par le Saint-Esprit. Mais la bataille finale n'a pas encore eu lieu. Jésus n'est pas encore revenu. Nous vivons encore dans un monde déchu, dans des corps mortels. Alors que faire ? Est-ce que vous pensez que les résistants se tournaient les pouces entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ? Non. Est-ce que vous pensez que les fiancés restent les bras ballants en attendant leur mariage ? Bien sûr que non. Les résistants se jettent sur le champ de bataille, les fiancés se préparent activement à leur union. Nous avons été libérés de notre culpabilité face à Dieu, libérés de la peur de la mort, libérés de la peur du jugement. Nous sommes possesseurs de la vie éternelle, nous sommes assurés de notre acquittement au jour dernier. Fort de ce constat, nous sommes invités à annoncer ce grand salut à toute la création et à offrir au monde la vie éternelle que Jésus propose. Nous avons changé de statut. Nous étions accusés. Nous sommes innocents. Nous étions innocents, nous sommes témoins. Nous qui sommes passés d'accusés à pardonnés, nous sommes envoyés dans le monde, à notre tour, pour être des témoins de la vérité à la suite de Jésus, pour poser des signes de notre espérance, pour nous faire avancer le royaume qui vient. Alors sans crainte, mais avec confiance, laissons le Saint-Esprit nous guider en ce sens pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.
Amen.
Prions.